Bonjour à tous, bienvenue dans À Notre Santé. Je suis ravie de vous retrouver après cette longue pause estivale qui a en réalité commencé au printemps. Mais nous voilà de retour sur les ondes de Radio Vassivière pour de nouvelles émissions consacrées à la santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui est familière mais mystérieuse. Dotée d'une grande charge symbolique, je veux parler du cancer, des cancers, ou plutôt d'expériences autour de cette maladie. On va en parler avec Lucie, qui a 31 ans, tu es à NED. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Et avec Camille, qui a aussi 31 ans, je crois.
Oui.
Qui est à Aune.
Bonjour.
Bonjour. Avant de commencer, je voudrais rappeler quelques chiffres. Chaque année en France, on estime à plus de 350 000 le nombre de nouveaux cancers. C'est le taux d'incidence. Il a tendance à baisser, mais on voit tout de suite à quel point c'est une épidémie. Mmh. Je ne sais pas si c'est les termes qui sont employés, mais ça paraît très très important. Dans les chiffres, on trouve également le taux de mortalité. Ça m'a frappée en fait de voir que ça apparaissait tout de suite. Dans les chiffres, en fait, au lieu de donner d'abord les chiffres de guérison, on donne ceux-là. Ce qui participe aussi, je pense, de cette charge symbolique un peu négative qu'on a derrière, c'est que c'est une maladie encore mortelle et que, du coup, au niveau des chiffres, même s'ils sont en baisse, on a encore 150 000 personnes qui en meurent chaque année. Donc les cancers les plus fréquents sont ceux de la prostate, du sein, du côlon rectum et du poumon. Chez les hommes, c'est le cancer du poumon qui est au premier rang des décès, devant le cancer colorectal et celui de la prostate. Et chez les femmes, c'est le cancer du poumon, enfin non, justement, c'est le cancer du sein, mais il est suivi de près par le cancer du poumon, ce qui n'était pas le cas en fait avant. Ça, c'est une évolution récente. Enfin, toujours avant de commencer la discussion, je me permets de réexpliquer un petit peu de quoi on parle, parce que finalement on ne sait pas toujours bien comment ça marche en fait. Qu'est-ce que c'est que cette maladie qui n'est pas du tout quelque chose qu'on attrape, mais quelque chose que l'on fabrique. C'est une maladie qui est connue depuis l'Antiquité et qui est liée à la prolifération et à la diffusion anarchique de cellules du corps. Ce qui se passe exactement, c'est assez simplifié, vous allez me dire si c'est juste, normalement j'ai un petit peu simplifié. Les cellules de tous les tissus se divisent pour en former de nouvelles, tandis que les cellules trop vieilles subissent une mort programmée. Tout a l'air très très contrôlé dans le corps. Et s'il y a des erreurs, normalement il y a des systèmes de réparation. Mais lorsque le système immunitaire est débordé par ces anomalies à répétition, les mécanismes de repérage, de réparation ou de mort programmée des cellules ne fonctionnent plus. S'il y a des anomalies, donc qu'on appelle des mutations génétiques, lors de la division cellulaire, et qu'elles ne sont pas repérées, on obtient des cellules cancéreuses. Une tumeur, elle est formée par un agglomérat de cellules cancéreuses et de cellules normales qui collaborent entre elles et qui envahissent les tissus voisins. Et du coup, elles peuvent ainsi proliférer à distance de leur localisation initiale. On parle alors de métastase. Les mutations génétiques sont liées a priori, sont liées à des facteurs externes, exposition à des produits chimiques, à des rayonnements, à la qualité, des défaillances de la qualité de l'air et de l'eau qui jouent, à l'alimentation, au stress, au vieillissement aussi bien sûr, et aussi à des virus. C'est assez rare, mais il arrive que les mutations concernent les cellules des organes reproducteurs. Dans ce cas, on parle de transmission héréditaire, mais ce n'est vraiment pas la majorité. En voilà pour le petit topo scientifique de départ. On va beaucoup plus parler maintenant de vécu, de témoignages, de ressentis. Et on va commencer avec toi, Lucie. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as appris que tu souffrais d'un cancer, ce que tu as ressenti, ce que tu as compris, qu'est-ce que tu avais d'ailleurs? Je ne l'ai pas encore dit, je voulais que tu le dises toi-même.
Eh bien, j'ai eu un cancer du cerveau et... En fait, ça s'est fait en deux phases parce que la première fois, ça a été une espèce de crise. J'ai perdu un peu. C'était un matin, j'ai perdu un peu la. J'étais plus consciente. Ouais, j'ai perdu connaissance. J'ai eu des hallucinations. Je me souviens pas très bien de ce moment parce que j'étais pas vraiment présente, mais j'ai eu un gros flou. Donc, on est allé à l'hôpital. Et là, j'ai passé la journée à l'hôpital. Jean-Gab, mon mari, était en dehors de tout ça pendant toute la journée. Moi, j'étais un peu shootée, quoi. Je me souviens que de, je pense, vers 18-19 heures où je me suis un peu réveillée. Et là, je savais pas du tout ce qui se passait, où j'étais. Et en fait, les médecins me disaient rien, les urgentistes. Et j'étais pas encore complètement normale. Voilà. Et puis là, Jean-Gab m'a rejoint et on est allé chez le gynéco parce que j'étais enceinte de 3 mois quand il y a eu ça. Et là, c'est une interne en gynéco qui nous a dit « Ah quoi, mais vous n'êtes pas au courant, on ne vous a rien dit. En fait, il y a une tumeur dans le cerveau de Lucie. Et voilà, et on ne sait pas ce que c'est pour l'instant. » Et moi, je n'ai toujours pas compris à ce moment-là.
Oui, parce que je crois que tu m'as dit qu'il t'avait dit que tu avais un gliome
oui.
de bas grade.
Oui.
C'est-à-dire, un gliome, c'était finalement le nom de cette tumeur à cet endroit-là. Et de oui. bas grade, ça veut dire bas niveau.
Voilà.
Et tu n'avais rien compris du tout.
Oui, et surtout, en fait, on ne le savait pas à ce moment-là. Parce que, du coup, comme j'étais enceinte, du coup, ils n'ont pas fait d'IRM avec le produit de D'accord. contraste pour savoir ça, parce que j'étais enceinte et qu'il y a des risques sur l'enfant si on fait cet IRM avec ces produits-là. Du coup, ils n'avaient rien fait. Donc, en fait, on ne savait pas vraiment les choses. Moi, ensuite, c'est Jean-Gab qui m'a dit, en fait, t'as une tumeur. Nous, on ne savait pas ce que c'était, la différence entre une tumeur, un cancer et tout ça. Du coup, pour nous, ça a été un choc énorme et on s'est retrouvés tout seuls dans la chambre et à ne pas savoir ce que c'était. Donc, on a une angoisse forte pendant toute la nuit. Jusqu'au lendemain, on a revu les médecins qui nous ont dit « Non, mais pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Moi, je croyais que j'allais mourir dans la semaine. » Enfin, ça... Voilà. On ne savait pas du tout ce que c'était. Et en fait, ils ont dit non, il faut qu'on fasse un contrôle, on ne sait pas ce que c'est, il y a juste une boule dans le cerveau. Et puis voilà. Par contre, après, ça a été aussi très difficile parce qu'ils nous ont mis la pression. Moi, j'étais encore... En fait, c'est qu'il y a eu un œdème sur la tumeur qui a fait que j'ai eu cette réaction. En fait.
Perte de connaissance.
Oui, cette perte de connaissance. Du coup, le temps que ça se remette... bien. J'étais quand même shootée et j'étais dans un état de choc, quoi. Et dans un esprit un peu... quand j'ai compris ça, je pouvais pas faire cet IRM avec le produit de contraste. Donc, je savais pas ce que j'avais. Je savais pas si c'était cancéreux ou pas. Mais j'avais quand même cette peur de la mort qui, dans ma tête, allait arriver vite. Donc j'étais assez désabusée, j'étais dans un esprit... je voyais tout comme la fin.
Une fatalité.
Ouais, voilà. Et plus vraiment le goût des choses, plus... Et puis j'ai pas mangé pendant 3 jours... parce que c'était pas possible, j'étais bloquée. Et en même temps, tout ce que j'ai vécu à ce moment-là est resté, c'était très clair en même temps dans ma tête, tout ce que j'ai vécu, les gens qui sont passés me voir et tout ça. Et ensuite, je suis allée à Lyon, et là, ils ont bien voulu me faire un IRM avec le produit de contraste, et donc on a su que c'était bénin. Et donc, j'ai pu continuer ma grossesse, accoucher et tout ça. Et c'est ensuite, dans un deuxième temps, quand Abel, mon fils, devait avoir 4-5 mois, que là, j'avais des IRM de contrôle régulier, que là, j'ai appris que c'était devenu cancéreux. Et donc là, nouveau choc, mais
est-ce que tu t'y étais préparée à ça? Que ça pouvait arriver?
On savait que ça pouvait arriver, mais en même temps, on s'était dit, ok, on s'était dit, je parle de nous deux, mais ok, c'est bon, on est parti. Ça sert à rien d'y penser. On n'en sait rien, j'ai une tumeur, j'ai une petite boule dans le cerveau, là. Si elle ne bouge pas, tout va bien. Elle ne bouge pas, moi, je ne sentais pas vraiment. Donc, ça a été quand même surprenant, parce qu'on ne s'y était pas vraiment préparé. Mais en même temps, tout de suite, tout de suite, il a fallu se mettre
dans la réalité.
Dans la réalité, attaquer le truc, et voilà. Donc, ça s'est fait.
Et toi, du coup, Camille, c'est en fait ta maman Oui. Qui a souffert d'un cancer. Et tu viens témoigner dans cette émission parce que tu as choisi, tu vas nous en parler juste après, de l'accompagner en fait là-dedans. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour elle, comment elle a découvert ça et comment elle l'a ressenti et vécu ?
Alors, donc pour ma mère, ça s'est passé, c'était en 2013, une semaine après le jour de l'an. Elle a laissé passer les fêtes. Elle sentait qu'elle avait une grosseur. Mais en fait, elle pensait, comme à l'époque, elle rentrait dans... Elle approchait les 60 ans. Elle pensait à la ménopause. Elle avait, ça devait être la suite logique. Donc, c'était un changement hormonal. Et pour elle, rien de plus. Donc, elle a quand même laissé passer les fêtes pour éviter une mauvaise nouvelle et profiter quand même des fêtes de fin d'année en famille sans avoir ça sur le... à l'esprit. Et une semaine après, donc elle a passé une mammographie pour vérifier. Et donc le résultat est très très rapide. C'était donc un cancer du sein. Donc moi je l'ai appris tout de suite. Elle m'a appelée. Elle était très choquée. C'est une. Enfin, je pense que toutes les femmes qui l'apprennent sont forcément très très choquées par une nouvelle comme ça. Et en même temps, c'est très banal parce qu'on en entend. On entend beaucoup. Je crois que c'est une femme sur huit qui est touchée par le cancer du sein.
Oui, c'est assez. Donc, pour ça, je disais, c'est assez familier.
Oui, c'est ça.
Ouais.
C'est assez familier. Donc voilà. Donc moi, je l'ai appris. Elle m'a appelée le matin et l'après-midi, je prenais ma voiture pour la rejoindre le soir. Il y avait 600 km qui nous séparaient. Donc le soir, j'étais avec elle. Et c'était un moment très 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 émouvant, très fort, et en même temps je crois que c'était nécessaire de se rapprocher à ce moment-là, d'être ensemble.
On sent bien, hein, rien que dans ton histoire, ne serait-ce que dans déjà le début de l'histoire, Lucie, à quel point ton mari vous êtes ensemble, quoi.
Oui.
Vous avez vécu ça ensemble et du coup toi aussi avec ta maman. Et du coup, elle a eu peur, très peur en fait. Hein, c'est ça qui lui est venu en premier, quoi.
Bah effectivement, c'est une personne qui de toute façon n'a pas, un mental d'acier qui a assez peur de la maladie en général. Donc là, en plus, elle, ça lui rappelait sa propre mère qui avait eu un cancer et qui en était décédée. Donc c'était un cancer de l'intestin. Donc aussi, c'était autre chose, mais pour elle, ça signifiait, c'était synonyme de mort. Et puis, c'était il y a déjà 3 ans, mais je trouve que le discours aussi, effectivement, autour du cancer, quand on entendait cancer, c'était toujours synonyme de mort. Donc, ça faisait très, très peur.
Et toi, à ce moment-là, tu t'es dit, je vais l'accompagner, mais est-ce que tu as pensé à la mort en disant, je vais l'accompagner vers la mort ou je vais l'accompagner vers la guérison ?
Je vais l'accompagner vers la guérison.
Oui, toi, c'était plus porteuse de ça.
Oui. Pour moi, c'était pas du tout. C'était pas possible qu'elle parte de ça. D'ailleurs, c'est ce que je lui disais presque tous les jours.
Oui, donc du coup, toi, t'étais vraiment porteuse d'une énergie comme ça de vie, quoi.
Oui.
Et du coup, pourquoi t'as fait ce choix parce que du coup, tu vas nous le dire, mais t'as tout quitté en fait, temporairement bien sûr, mais pour aller vivre dans ta région natale auprès d'elle, t'as trouvé un petit boulot à côté pour être là tous les jours, quoi.
Voilà, ouais.
Donc, t'avais quel âge à ce moment-là ?
Alors, j'avais 28 ans. Donc, à ce moment-là, j'étais en reconversion professionnelle. Donc, je pouvais me permettre d'arrêter. J'avais repris des études, mais rien de très précis. J'avais pas de travail non plus. Donc, je me suis débrouillée pour trouver un petit travail à mi-temps et puis qui me permettait d'être avec elle la majorité du temps.
Ça a duré combien de temps ?
Ça a duré 6 mois.
D'accord.
Et donc ça me permettait, comme à ce moment-là mes frères n'étaient pas présents à la maison, elle était toute seule avec mon père travaillait encore, donc ça me permettait d'aller faire les courses, de m'occuper un petit peu des tâches du quotidien, de lui faire à manger, de l'emmener se changer les idées.
Et elle accepte, elle te disait pas non, je vais faire à manger, c'est bon.
Oui, non, c'était au contraire, c'était une demande aussi de sa part, parce que je crois que si je ne l'avais pas fait, elle se serait vraiment isolée. Et là, j'ai montré qu'on pouvait continuer à vivre comme ça, que c'était quelque chose de commun, que c'était pas si grave que ça, qu'il fallait qu'elle fasse confiance à la médecine et qu'elle continue surtout de vivre et normalement, et que c'était important qu'elle trouve aussi des moments de joie dans ces moments difficiles.
Oui. Donc à la fois, elle pouvait se consacrer, entre guillemets, à sa guérison, parce que tu prends en charge l'AS, et en même temps, il fallait aussi qu'elle l'oublie, qu'elle se dise, j'ai une nuit. Non, voilà, ça fait quand même une grosse différence, parce que c'est vrai que le cancer du sein, c'est un cancer où on a de plus en plus, j'ai l'impression qu'au niveau guérison, il y a de meilleurs résultats. C'est, entre guillemets, devenu commun. Mm. Et par contre, alors là, dès qu'on parle du cerveau, on a très peur, parce que c'est, de toute façon, au-delà des cancers, dès qu'on parle du cerveau, c'est très mystérieux, c'est un organe.
C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas.
Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas exactement, on peut pas nécessairement avoir le même discours. On va justement maintenant parler des soins et des traitements. Aujourd'hui, on traite les cancers de trois manières. Par la chirurgie, alors là, on essaye d'enlever la tumeur. Par la chimiothérapie, c'est-à-dire des médicaments qui vont bloquer la division des cellules cancéreuses. Et ou par la radiothérapie qui cherche à détruire l'ADN des cellules cancéreuses par des radiations. Alors évidemment, la difficulté, à peu près dans toutes les techniques, c'est de préserver les tissus sains autour. C'est un petit peu ça, il y a toujours un tas de questions délicates. Je voudrais savoir un petit peu, toi Lucie, comment tu as été prise en charge en fait. Avant que tu te dises le traitement, est-ce qu'on te le propose ou est-ce qu'on te l'impose? Est-ce qu'il y a une discussion? Comment ça se passe?
C'est pas vraiment une discussion, on me l'impose pas. C'est sûr que si j'avais eu l'idée de dire non, j'en veux pas. Je sais pas comment ça serait passé, mais j'étais plutôt d'accord pour le faire au départ. Mais il y a vraiment une discussion. Ensuite j'ai été suivie à Lyon. Donc c'était aussi un autre accueil que j'ai reçu là-bas. Et le médecin, le neuro-oncologue qui m'a suivie, était hyper attentionné. Il écoutait vraiment. Vraiment d'abord la personne, et du coup et on a pu discuter ensemble de ce que c'était. Je sais pas si je réponds à la question.
Si, en tout cas le rapport là avec le tu vas nous dire quel traitement tu as eu, mais en tout cas au niveau de l'ambiance et de l'hôpital, là, toi tu parles de quelque chose de plutôt humain, tu t'es sentie vraiment accompagnée finalement par ce médecin.
Je me suis sentie vraiment accompagnée, écoutée, et ce qui en fait avait pas été du tout le cas à Limoges, où je m'étais sentie, c'est étonnant, mais ça avait été même violent par rapport avec les médecins, avec cette question sur l'enfant que j'avais à ce moment-là. Ils m'ont mis une pression forte alors que j'étais pas consciente.
Donc juste rappelle-nous, parce que tu dis Limoges, et Limoges, c'était au tout début, quand tu savais pas la semaine ou les quelques jours t'as passé, où tu savais pas ce que t'avais.
Limoges, c'était trois jours où je savais pas ce que j'avais, et où il y avait cette question de pas pouvoir faire l'IRM. Ils voulaient pas prendre le risque de faire cette IRM que à Lyon ils ont bien voulu faire. Et du coup, là, ça a été très violent, à part, bien sûr, avec les infirmières, compris un soin super, qui m'ont vraiment accompagnée, mais au niveau
médecin
c'était très violent. Ils ont même mis un moment Jean Gab dehors pour venir me dire « il faudrait que vous avortiez parce qu'on ne peut pas faire cette IRM », alors que je n'étais pas vraiment consciente et que il nous séparait à ce moment-là d'un truc qui était difficile à entendre. Donc il y a eu des choses comme ça un peu violentes dans la manière de faire. Et ce qui n'a pas été le cas à Lyon, et je ne sais pas si c'est une question de personne, aussi peut-être parce que... je sais pas, on connaissait d'autres personnes dans nos familles ou des amis qui travaillaient dans le milieu médical à Lyon. Alors, je sais pas si ça joue de connaître des gens qui connaissent les gens si c'est juste des personnes qui ont été incroyablement délicates avec moi. C'était un coup de bol.
Après, il y a quand même un risque par rapport à effectuer une IRM.
Oui, il y avait un risque de faire cette IRM avec ce produit, mais ils ont vu des problèmes que sur les souris, mais jamais sur les hommes.
D'accord.
Donc,
c'est ce qu'ils t'ont dit.
Voilà.
Donc, du coup, le traitement que tu as eu, c'était quoi?
Du coup, le traitement que j'ai eu, ça a été d'abord une radiothérapie. Donc, que j'ai fait à Lyon, c'était quoi? Je pense 2 mois de radiothérapie. Donc, tous les jours, j'allais à la radiothérapie et j'avais un truc sur la tête et voilà. Et je sentais rien, mais j'avais la tête maintenue pour surtout pas bouger. Et puis voilà.
Ça dure combien de temps, la tête maintenue pour pas bouger pendant les radiations?
C'est un quart d'heure à peu près. D'accord. Dans mon souvenir, un quart d'heure, ouais. Donc tous les jours, donc j'habitais, du coup on a déménagé chez mes parents parce que la radiothérapie on la faisait à Lyon. On habitait chez mes parents et il y avait, ça c'est super aussi en France, hein, mais il y avait un taxi qui m'emmenait tous les jours à l'hôpital. Après la chimio que pour le coup j'ai fait à Limoges, pareil, j'avais un taxi qui m'amenait et qui me ramenait. Enfin l'ensemble, hein, tout est pris en charge, on ne paye rien. Je pense que c'est pas la même chose dans tous les pays. De ce côté-là aussi, c'est incroyable quoi, d'être suivi comme ça.
Donc traitement radiothérapie et ensuite une deuxième partie de
chimio. Et ensuite deuxième partie chimiothérapie. Et donc là, j'avais, je crois que c'était des séances de 4. J'avais 4 produits différents, donc à peu près sur un mois et demi, j'allais 4 fois à l'hôpital. Pour prendre des produits à chaque fois différents. Je ne vais peut-être pas donner les noms.
Non, mais par contre, ce qu'on peut se poser comme question, parce qu'on entend tout dire chimiothérapie, on n'a pas toujours d'images. Il y en a qui ont des images, il y en a qui n'ont pas. Par exemple, une séance, on appelle ça une séance de chimiothérapie, ça dure combien de temps? On est assis, c'est une injection?
Ouais, c'est soit une injection, soit un truc que... Attends, une injection...
Est-ce que c'est une piqûre?
Oui, c'est une piqûre ou c'est des...
Comprimés?
Médicaments.
Oui, des médicaments qu'on avale, quoi. Sauf que, pourquoi il faut aller à l'hôpital? Parce que, oui, il y a une durée avant où il faut...
Alors, moi, j'avoue que je me suis préservée de cette partie médicale. Je voulais garder de la force, donc je ne me suis jamais vraiment... j'ai pas voulu avoir d'image, justement, de ça. Mais je sais que, bon, pour la chimiothérapie, ma mère partait une matinée entière et elle revenait ensuite le midi. Et pendant 3 jours, elle était...
KO,
ouais.
Toi aussi, tu as eu cette sensation?
Oui, alors ça dépendait sur les 4 produits que je prenais. Il y en avait certains qui me mettaient plus ou moins KO. Mais en fait, dans l'ensemble, j'ai assez bien vécu ma chimio. Peut-être avec ce que j'ai mis en place à côté comme médecine alternative.
On va en parler après. Ouais. Hein.
Mais du coup, j'ai été étonnée de... J'ai pas beaucoup vomi, j'avais pas tant de nausées que ça, enfin par rapport à ce que j'ai entendu d'autres chimiothérapies, je trouve que j'ai plutôt bien vécu.
Après il y a peut-être la jeunesse aussi, des choses comme ça. Ouais. On va parler de ta maman, mais je voudrais juste, Lucie, au niveau du traitement, finir sur dire que ensuite, après cette radiothérapie, cette chimiothérapie, est-ce que tu as eu autre chose? Et surtout, il y a quand même un moment où tu as annoncé que la tumeur était stabilisée.
Ouais.
Donc ce moment-là est arrivé combien de temps après? Et est-ce que, enfin.
Alors après la chimio, c'était quoi? Ça devait être de mars, ça a dû commencer en mars, je pense, fin mars. Et j'ai appris en décembre qu'a priori, il n'y avait plus de cellules cancéreuses. Et donc, on allait arrêter les traitements. Ouais, donc voilà.
Est-ce que c'était tu veux qu'on passe? Est-ce que du coup c'était bon et ça, t'as pas eu d'autres traitements ça?
Oui, non, et j'ai pas eu d'autres traitements. Il y a juste eu quelque chose de difficile dans la chimio en fait. C'était que avant chaque dosage, ouais, je faisais une prise de sang pour savoir quel était mon taux de globules blancs. Et souvent, il était trop bas pour pouvoir faire la chimio qui allait venir. Du coup, c'était tout le temps décalé.
Ah oui.
Et du coup, on pouvait pas prévoir grand-chose. Notamment, c'était difficile quand on voulait prendre des vacances parce qu'en fait, on savait pas si j'allais être malade ou pas, si j'allais prendre mon médoc ou pas. Et à chaque fois, ça décalait tout. Voilà. Et puis... Mais voilà, après, une fois que j'ai appris, j'ai dû faire un deuxième contrôle à Lyon. Et voilà, après, j'ai repris le travail.
Camille, du coup, au niveau du traitement de ta maman?
Alors, d'abord, il a fallu enlever le sein. Ça, c'était la première étape parce que le sein était vraiment... C'était un cancer qui était très agressif avec la chaîne ganglionnaire qui était touchée. Donc si on laissait comme ça, ça risquait de se propager. Donc il a fallu d'abord faire l'ablation du sein, donc une opération, et ensuite elle est rentrée dans un processus assez nouveau. Elle était prise en charge par un hôpital à Caen, qui est dans une recherche très innovante en fait au niveau du cancer du sein spécifiquement. Et elle a bénéficié donc d'un traitement très, très nouveau et donc d'une chimiothérapie
de pointe,
voilà. Et ça a été super. Donc elle avait un suivi hebdomadaire, voilà, donc avec cette chimiothérapie. Elle en avait deux par mois pendant. Donc ça a duré 6 mois exactement, voilà. Et uniquement chimiothérapie suite à cette ablation et ensuite quelques médicaments pendant plusieurs années, mais plus de besoin d'aller à l'hôpital deux fois par mois comme ça.
Et tu m'as dit aussi qu'elle avait eu une reconstruction en fait.
Voilà, oui, une reconstruction du sein donc, qui a eu lieu juste cette année là, qui est très très récente. Il a fallu attendre donc qu'elle ne prenne plus du tout de médicaments et que ce soit bien stabilisé. Et là, ça y est, elle a des nouveaux seins.
J'imagine que c'est très important.
Oui. Bah là, elle se sent vraiment à nouveau femme. Elle s'est réappropriée son corps, en fait, ça y est. C'est une page tournée, quoi.
Donc voilà, déjà, c'était un peu le but aussi de l'émission, c'était de montrer plutôt des expériences où on guérit, on peut guérir du cancer, et même tourner la page. On va reparler un petit peu après.
Je me permets, j'ai juste moi pas pensé par rapport à ce que tu disais. En fait, moi après, j'ai eu un suivi, j'ai un IRM, je sais pas dans quelle manière elle a été suivie après, mais moi j'ai eu un IRM tous les 2 mois, après tous les 4 mois, après maintenant je suis à tous les 6 mois.
Ouais,
l'année prochaine, je serai tous les ans, ouais. Ensuite tous les 2 ans, et au bout de 5 ans, on parle de guérison. C'est là, ça. On parle de rémission,
oui, rémission,
et au bout de 5 ans, on parlera de guérison.
Oui. Je pense que
c'est le même protocole.
Merci de l'avoir rappelé, du coup. Je voulais parler un petit peu des effets secondaires. Tu en as un petit peu parlé, Lucie, en disant que toi, tu avais quand même relativement bien supporté le traitement chimio, en tout cas. Et que tu avais eu, en tout cas, peu d'effets digestifs, etc. Ouais. Mais je pense qu'on peut en avoir pas mal. Est-ce que toi, Camille, puisque du coup, là, par contre, tu étais plus proche de ta mère sur cette partie-là, en fait.
Ouais.
Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les effets secondaires qu'elle aurait pu ressentir
Alors, au tout départ, c'était étrange pour elle parce qu'en fait, elle se sentait pas du tout malade. Donc, on lui disait qu'elle avait un cancer, qu'elle avait une maladie grave, mais elle se sentait absolument pas malade, même après l'opération et les premières chimiothérapies. Il n'y a pas d'effets secondaires tout de suite. C'est seulement, je crois que c'est au bout de la 3e ou 4e, je ne sais pas si Lucie tu confirmeras, mais c'est après une certaine dose de chimiothérapie dans le sang qu'on se sent un peu plus, qu'on se sent moins bien, et que là, bah, les cheveux commencent à tomber. Donc ça, c'était vraiment la partie visible du coup du cancer. En fait, c'est ce qui est marrant, c'est que nous, on assimile ça à la maladie, mais en fait, c'est un signe de guérison, parce que ça veut dire que le traitement fonctionne. Si les cheveux tombent, ça veut dire que le traitement agit sur les cellules qui se renouvellent trop vite, donc ces cellules cancéreuses, et donc les cheveux en pâtissent. Et donc, il y avait ce premier effet secondaire, et puis aussi, évidemment, les nausées, qu'elle a ressenti, mais un peu comme Lucie, pas tant que ça, par rapport à l'image qu'on peut s'en faire. Et au niveau de l'appétit aussi, une perte d'appétit ou des choses qu'elle ne pouvait plus manger parce que ça l'a dégoûtée un peu.
Ouais. Au niveau des cheveux, quand tu dis... Oui, du coup, c'était bien que tu rappelles ça. En fait, la chimiothérapie cible les cellules qui se renouvellent très vite.
Oui.
Donc les cellules cancéreuses, et il y en a d'autres comme ça dans le corps qui sont les cellules donc des cheveux.
Oui.
Des ongles aussi, non ?
Les ongles, oui. Tout ce qui est système pileux.
Donc, alors moi, dans mon cas, ça me faisait pas...
Je redis un peu quand vous parlez.
Oui.
Parce que...
Oui. Donc dans mon cas, la chimiothérapie ne me faisait pas perdre les cheveux, ni tout ce qui va avec. Par contre, j'ai quand même perdu, mais qu'une partie de mes cheveux, que la moitié, côté gauche. Parce que c'est la radiothérapie, moi, qui a fait cramer, en fait,
oui,
les cheveux.
D'accord.
Mais du coup, tout le reste était là. Et j'ai gardé, j'avais les cheveux très longs, j'ai gardé le côté droit pour accrocher l'ensemble. faire comme si j'avais des cheveux.
C'est vrai que c'est pas, les chimiothérapies ne font pas toutes perdre les cheveux, même pour le cancer du sein. Le cancer du sein, on a une chimiothérapie qui quand même a tendance à faire perdre les cheveux, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est bien de le rappeler parce qu'on pense tout de suite à ça et c'est une des étapes qui est les plus difficiles à vivre pour une femme. Et c'est pas forcément une fatalité, ça arrive pas forcément à toutes les femmes.
Ce qui est difficile avec la perte des cheveux, c'est que soudainement ça se voit. Donc dans la rue, je suppose qu'on a l'impression qu'il y a écrit cancer sur le front, quoi.
Oui.
Et du coup, pour supporter ça, eh bien, on a besoin de choses pour se sentir beau et belle. Et du coup, je voulais que tu nous parles un petit peu, Camille, de l'inspiration que tu as eue finalement en accompagnant ta mère.
Oui. Oui, ça c'est l'étape que je redoutais le plus, moi, avec ma mère. C'était le moment où elle allait perdre ses cheveux parce qu'elle avait une chevelure très très dense. C'était vraiment, ça faisait partie de sa personnalité, une chevelure très frisée, très présente. Donc je savais que ça allait être très difficile parce que c'était une perte vraiment de son identité qui partait aussi avec la maladie. Et donc j'étais là quand elle a commencé à aller perdre sous la douche. Donc ça a été un moment très difficile et tout de suite on a appelé le jour même un institut capillaire spécialisé pour aller tout de suite choisir une perruque et pas attendre qu'ils tombent tous, donc prendre un peu les devants. Et on a trouvé une perruque à ce moment-là qui correspondait à sa nature de cheveux, qui faisait que c'était presque imperceptible quand elle la mettait, on avait l'impression que c'était vraiment ses cheveux. Mais en fait, on s'est rendu compte très vite que ça l'a gênée de porter cette perruque, qu'elle se sentait pas à l'aise avec. Finalement, elle avait chaud, ça l'a gratté. C'est pas forcément facile en fait à accepter une prothèse capillaire. Et donc, elle a très vite préféré porter des foulards. Alors que c'est vrai que quand on voit une femme avec un foulard dans la rue, tout de suite, on sait ce qu'elle a. Finalement, c'était comme ça qu'elle s'acceptait le mieux, et avec des foulards très colorés, qu'elle s'amusait à sortir à ses tenues. Et c'est comme ça que moi j'ai eu l'idée ensuite, comme je cherchais à l'époque des choses qui étaient adaptées à sa problématique, qui pouvaient se nouer facilement sur sa tête. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire parce que c'est compliqué à trouver en fait. Des accessoires qui soient jolis, qui fassent pas forcément malade, mais qui soient aussi féminins et à la mode, et qui soient pas un accessoire médical. Voilà, donc c'est comme ça que après ces 6 mois passés auprès d'elle, j'ai commencé à réfléchir à développer une ligne de produits de turbans adaptés à la problématique des femmes qui perdent leurs cheveux suite à un cancer.
Et du coup, tu as créé une entreprise qui s'appelle Chandor.
Oui.
C'est donc une entreprise de notre région Limousin. et donc, tu fabriques, tu dessines, parce que toi, tu es plutôt artiste à la base.
Ouais, moi, je suis plutôt à la direction artistique. Je travaille avec des designers et des stylistes. Et donc, pour l'instant, on a développé trois modèles. Un turban pré-noué qui se pose comme un bonnet sur la tête, il n'y a rien à faire. Et qui est tout doux, du coup, pour le contact avec la peau à l'intérieur. Et deux autres qu'on peut nouer un peu comme on veut. Voilà.
Et après, tu vends aussi des foulards.
Des foulards,
enfin, ouais. C'est pour dire que c'est pas... en fait, ça s'appelle Chandor, Chandor.
Oui.
Et c'est une marque de création...
Une marque de mode.
De mode d'aujourd'hui, qui n'est pas en fait destinée nécessairement aux femmes qui n'ont plus de cheveux. Mais... C'est comme ça que ça a commencé pour toi, en fait, l'idée.
Ouais, c'est ça, voilà. Je voulais pas créer une marque uniquement dédiée aux malades, je voulais que ce soit une marque pour toutes les femmes, et aussi ces femmes-là qui ont ce problème-là.
Mais surtout que ce turban dont tu parles, il y a des femmes qui te l'achètent pour le mettre
Alors,
sur leurs cheveux,
la plupart des femmes l'achètent alors qu'elles ne sont pas du tout malades. C'est vraiment pour comme ça, hein, comme un chapeau, comme un bonnet. Donc c'était le but aussi, c'était que ce soit pour tout le monde. Et,
du coup, qu'on voit ça porté aussi par des femmes qui ne sont pas malades, quoi.
Voilà.
On va parler un petit peu plus du mental. Tu parlais tout à l'heure du mental d'acier, c'est que je me posais un petit peu la question. Pour faciliter la guérison, c'est-à-dire la stabilisation, la fin de la prolifération des cellules cancéreuses, et même, si j'ai bien compris, donc la fin de la présence de toutes cellules cancéreuses, faut-il un mental d'acier ou de coton ? Je pose la question à Lucie. C'est vrai qu'on lit beaucoup qu'il faut combattre, et je me demande si c'est la stratégie que tu as eue. Et si c'est vraiment ce qui est intéressant, préconisé en tout cas, enfin.
C'est difficile parce que j'ai pas. Je me suis pas dit, bon, ma stratégie, ça va être quoi face au truc.
Oui, oui.
Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai appris que c'était devenu cancéreux, ça a été un peu un choc. Mais tout de suite, je me suis dit, enfin, tout de suite, ça a été en fait une évidence que ça y est, il faut attaquer le truc, quoi. Et il faut s'y mettre. Et du coup, j'ai regardé tout ce qu'il était possible de faire pour y aller, quoi. C'est vrai que peut-être qu'il faut. En tout cas, moi, j'y suis allée de manière un peu battante, quoi. Et d'ailleurs, une fois que tout était fini, c'est un peu là que j'ai eu une espèce de dépression parce que d'un coup, je me retrouvais guérie. Mais guérie, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ma tumeur, elle est toujours là. Elle est toujours dans mon cerveau. Il y a toujours une petite boule qui est là et qui est mouvante. Enfin, c'est une sorte
de tissu.
De tissu.
C'est pas une boule, tu m'as dit. C'est plutôt
un tissu
qui s'étale ou qui ne s'étale pas.
Voilà. Et du coup, c'est plutôt après, une fois que tous les traitements se sont arrêtés, que ça a été difficile au niveau. Qu'il y a eu ce petit temps de dépression où je me suis dit, ah mince, qu'est-ce que je fais sans tout cet accompagnement qu'il y avait autour. Voilà.
Parce que ça te portait beaucoup. En fait, toi, tu étais très accompagnée par le corps médical, par ton mari, et en fait, c'était une énergie aussi qui t'aidait à tenir. Et puis.
Ouais, il y avait quand même une énergie dans cette bataille, en fait. En fait, du coup, j'étais super active pour ça. Et tout à coup, la superactivité s'arrête, quoi.
Donc, tu parles vraiment de bataille.
Parce qu'un jour, je sors de l'IRM et on me dit, c'est bon. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, c'est bon.
Oui, oui. Donc, en tout cas, t'es vraiment sur une bataille, quand même, d'employer ces mots et se battre et battant, et etc.
Ouais.
C'est quand même... Et toi, ta maman ? Alors, toi, est-ce que tu lui disais, faut que tu te battes ?
Non, je lui ai pas dit faut que tu te battes. Je lui ai plutôt dit de se laisser faire, se laisser accompagner par le corps médical, se faire confiance. Et elle avait le droit en fait d'être faible. Elle avait le droit de s'écrouler le soir, de pleurer. Elle avait le droit d'avoir peur. Enfin, je voulais pas qu'elle s'épuise en fait à se dire il faut que je me batte parce que c'était pas son tempérament. Et je lui disais plutôt, laisse-nous nous battre pour toi, en fait. Mmh. Et donc, c'était mon père qui l'accompagnait à tous les rendez-vous médicaux. C'était tous ses amis qui étaient autour et qui lui donnaient de la force, en fait. Je pense qu'elle a senti tout le monde se battre autour d'elle pour faire force avec elle. Mais elle n'était pas particulièrement battante à ce moment-là.
Oui, même si j'ai bien compris, elle était...
Elle était plutôt comme une petite fille. Elle attendait qu'on lui dise quoi faire, comment se comporter face à tout ça, ouais.
Et ça, c'est complètement parti, ce comportement-là maintenant.
Alors,
elle est redevenue.
Oui,
elle
est redevenue. Bon, après, elle a un tempérament aussi comme ça de nature, mais par contre, ça, la maladie l'a changée. Oui, elle est beaucoup plus ouverte. Elle s'est inscrite à l'université. Après, elle a envie de profiter en fait de chaque moment. Elle a beaucoup plus conscience du temps qui passe, des petites choses du quotidien qui sont précieuses, ça c'est sûr.
Du coup, au niveau de cette histoire de mental, on est quand même sur une espèce de bataille, une lutte, et en même temps, comment on peut faire ? Parce que j'imagine qu'on est quand même bien obligé d'accepter le fait que ça existe, que ça se passe, et que la tumeur elle est là, comme tu dis, et elle va partir, elle va juste arrêter de me faire du mal. Et donc j'imagine qu'il y a une histoire de dosage en fait, entre une bataille, mais quand même une acceptation, ou comme tu dis, un lâcher prise par rapport aussi au corps médical.
Ouais.
Et...
Oui, oui. Oui, c'est vrai que si on n'accepte pas, c'est... Je sais pas, mais je pense que c'est hyper violent. Et c'est vrai qu'il faut laisser faire. Enfin, je sais pas. En fait, je pense que moi, j'ai pu prendre ce choix d'y aller. Parce que aussi, j'avais accepté et compris. Je pense que l'acceptation était importante et que j'ai pu la faire parce que aussi j'étais entourée, parce qu'il y avait tout le monde, ma famille, sa famille, autour de nous, les amis. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous ont soutenus et qui m'ont aidé à accepter et à faire le choix d'y aller, quoi.
Ouais, et choisir de faire face. Mmh. Est-ce que je m'aperçois qu'il est 18h40 et que j'ai oublié de redire. J'aime bien redire au milieu d'émission où on est, voilà, parce que des fois il y a des auditeurs qui tournent le bouton de la radio. Vous êtes sur Radio Vassivière, on est dans À notre santé, émission sur des expériences du cancer, et nous allons maintenant parler du regard des autres. Est-ce que l'acceptation dans la société a été difficile pour toi, Lucie? Ou pour ta maman, Camille, qu'est-ce qu'elle t'a dit, par exemple, ta maman ?
Alors, moi, je l'ai pas ressenti particulièrement parce que je l'emmenais. Pourtant, on continuait à faire des séances de shopping ensemble. C'était nos moments à nous. Et donc, elle sortait avec ses foulards. Et je pense que ça a évolué parce qu'on est habitué, on s'est habitué quand même à voir des femmes. On voit tout de suite, bon, elles n'ont plus de sourcils, elles n'ont plus de cheveux, elles portent un foulard. Voilà, on ne va pas forcément les regarder d'un drôle d'air. Donc, je n'ai pas trouvé particulièrement qu'il y avait de difficultés. Non.
Et toi, du coup, Lucie, ça ne se voyait pas trop, mais après, tu le disais. Donc, est-ce que tu voyais des réactions
Je n'ai jamais vu de réaction bizarre ou difficile à vivre pour moi. Mais non, ça n'a pas été difficile de regarder les autres. Vraiment, les gens sont chouettes. Hein.
Les gens ont peut-être peur.
Ouais, les gens... oui, et en même temps, les gens sont étonnés de voir qu'en fait... la chimio, ça se passe bien, qu'en fait, on en guérit. Moi, avant d'avoir ça aussi, je ne savais pas ce que c'était un cancer. Je ne savais pas qu'il y en avait plein. Je ne savais pas qu'on pouvait en guérir. Je ne savais pas que... Et en fait, je pense quand j'en parlais avec tout type de personnes, c'est vrai que du coup, il y a quand même un étonnement plutôt positif. Parce qu'en fait, au final... Au final, ça s'est bien passé. Même si la suite, on ne la connaît pas. Pour l'instant, ça va bien et c'est déjà super.
C'est vrai que j'avais remarqué que tu en parlais très facilement. Ouais. Et je ne sais pas si... Et que peut-être d'autres gens n'en parlent jamais. Ils vivent ça de manière totalement privée. Toi, tu le disais comme ça. Je ne sais plus comment tu employais les mots.
Ouais. Ouais, en fait, ça faisait quand même partie de moi, et ça fait encore aujourd'hui partie de moi, et je pense que ça m'a aussi transformée, ça a aussi changé des choses, comme tu disais pour ta maman, quand je parlais de quelque chose qui avait un lien avec le changement que ça avait. Que ça a opéré en moi, et ben je trouvais que c'était important de le dire.
Oui. Oui, oui. Justement, tu parlais tout à l'heure de pratiques un peu alternatives que tu as mis en place en parallèle du traitement que tu subissais. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui. Alors, la chose la plus importante que j'ai mis en place, c'est le jeûne. Parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Et du coup, je jeûnais à chaque traitement de la chimio. Donc pas pendant la radiothérapie, uniquement pendant la chimio, avant de recevoir les traitements. Donc je jeûnais le jour avant la chimio, le jour de la chimio et le lendemain. Et ça fait que les cellules cancéreuses s'affaiblissent très vite parce qu'elles ne trouvent plus de ressources, alors que les cellules saines, elles vont chercher les ressources ailleurs et elles se renforcent et elles donnent tout pour
écarter,
pour vivre, pour vivre ce moment de trouble inhabituel, et alors que les cellules cancéreuses ne savent pas faire face à ça. Du coup, je pense que ça a joué pour que la guérison arrive plus vite. Et aussi, pour tout ce qui est nausées, vomissements et tout ça, je pense que de ne pas avoir de nourriture dans le corps a peut-être permis que ça se passe mieux à ce niveau-là. A sans doute permis ça.
C'est aussi une technique qui permet d'affamer les cellules cancéreuses qui vont du coup se jeter sur les produits de la chimiothérapie qui vont donc les tuer au fur et à mesure.
Est-ce que du coup, t'avais... Enfin, on va revenir sur le jeûne hein, au niveau de comment ça a été perçu, notamment par le corps médical, mais est-ce que tu avais mis d'autres choses en place au niveau alimentaire ?
Oui, au niveau alimentaire, du coup, j'ai lu beaucoup de choses. Et en fait, j'ai surtout arrêté le lait animal et le sucre. C'est les choses les plus importantes qui nourrissent beaucoup les cellules cancéreuses. Donc ça, c'était le principal. Et puis à côté, j'ai essayé de manger plutôt des choses épicées, l'ail, du curcuma, du gingembre. Oui, ce que j'ai enlevé aussi, c'est peut-être tout ce qui est viande rouge. J'essaie aussi de manger, enfin, et j'essaye toujours, hein, beaucoup moins, mais j'essaye toujours. J'essaye aussi de manger que des aliments, comment on dit, riz complet.
Des céréales non raffinées.
Oui, voilà, céréales non raffinées.
Bon, en gros, tu appliques une alimentation un petit peu anti-cancer telle qu'elle est écrite dans le bouquin de David Servan-Schreiber, Anti-cancer, qui était un gros best-seller et qui, je crois, est toujours un livre un peu de référence là-dessus.
Bah oui, je pense. Moi, je l'ai tout de suite lu, en tout cas.
Ça a été c'est vrai que moi, je l'ai lu alors que je n'étais pas concernée par intérêt. Et ça se lit tout seul, c'est hyper intéressant. Et c'est hyper intéressant au niveau de l'alimentation santé en général. C'est-à-dire que finalement, on est plutôt sur un type d'alimentation qui va essayer de lutter contre tous les phénomènes inflammatoires. Donc en fait, ça ne concerne pas nécessairement que les cancers. Quoi. Mm-hmm. Ça peut concerner plein d'autres maladies. Donc, c'est assez intéressant pour ça. Et il parle aussi d'autres pratiques de prévention. On va en parler juste après. Mais je voulais juste savoir, au niveau du jeûne, Lucie, comment ça se passait à l'hôpital ? Est-ce que tu leur disais ? Est-ce que tu ne leur disais pas ? Comment ils le prenaient ?
En général, ils le prenaient plutôt mal. Donc, en général, je ne le disais pas. J'essayais vraiment d'éviter ça parce qu'ils ne comprenaient pas. C'était pas très bien reçu. Au niveau plutôt des infirmières, il y en a avec qui étaient intéressés, qui avaient entendu ces choses-là. Enfin, c'était plus simple parce que s'il n'y avait pas la pression du médecin. Mais après, j'ai surtout vu en fait les internes. Le médecin qui m'a suivi à Limoges, je l'ai vu une fois au début et une fois à la fin quand elle m'a dit que c'était guéri. Mais donc les internes qui me suivaient à chaque fois, c'était un peu des gens différents. Il y a un seul interne, une fois, à qui je l'ai dit, et qui m'a dit « Non, mais il faut surtout pas faire ça et tout ça. » Et du coup, je lui ai dit « Non, mais vraiment, je pense que ça me met dans un meilleur état pour vivre le traitement. » Et il m'a dit « Oui, essayez sans. » Donc j'ai essayé sans. Une fois, et j'étais... c'était pas radicalement différent, hein. Mais j'étais... Je pense que j'étais plus fatiguée. Je pense que... c'est étonnant parce qu'en fait, déjeuner, ça donne une force. Je sais pas exactement pourquoi, mais ça donne une puissance. J'allais marcher, moi. Je prenais Abel sur mon dos, mon fils, qui avait du coup 1 an, et j'allais marcher des heures. Et en fait, ça me mettait en super forme.
Et toi, du coup, au niveau de l'alimentation, parce que tu m'avais dit aussi que tu avais pas mal de lectures, et est-ce que tu as donné des petits conseils à ta maman ? En même temps, tu n'es pas médecin, c'est un peu comme Lucie. C'est difficile après hein, de pouvoir appliquer des conseils comme ça. Bon, même s'il y a de plus en plus de littérature et d'études, c'est toujours pas dans les protocoles, en tout cas, des services hospitaliers.
Non, c'est vrai, ça ne faisait pas partie des conseils qu'on allait lui donner, les médecins ou les infirmières. Donc, moi, je me suis auto-donné ce rôle-là. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, je vais chercher dans les bouquins, sur Internet, des listes d'aliments qui sont préconisés, qui peuvent lui faire du bien. Et j'ai fait ça, j'ai remplacé petit à petit, comme disait Lucie, le sucre plutôt par le miel, les céréales, les légumineuses, les choses qui pouvaient lui faire du bien comme ça. Éviter la viande rouge, éviter le gras, parce que c'est ce qu'adorent les cellules cancéreuses. Et puis il y a plein de super aliments en fait, c'est ce qu'ils appellent ça vraiment des super aliments, comme la grenade, des fruits qui donnent beaucoup, beaucoup d'énergie, qui aident à combattre.
Antioxydants.
Qui sont vraiment antioxydants, comme le thé vert, etc. Donc oui, moi je faisais des courses avec cette liste-là, et puis toute la semaine j'essayais de lui faire des petits menus avec tous ces aliments-là. Et puis c'était psychologique aussi, je pense que c'était une manière de participer à sa bataille. Et elle aussi, psychologiquement, elle se disait « tiens, ça m'aide, ça va changer quelque chose ». Mm.
Très bien, bah justement au niveau de la prévention, en fait au niveau des risques de développer un cancer, il y a tout un tas de facteurs externes et en fait en agissant dessus, et notamment ce que j'ai lu selon l'Institut National du Cancer, en ne fumant pas, en limitant sa consommation d'alcool, en évitant d'exposer trop au soleil, en ayant une alimentation saine, alors après le saine il veut dire ce qu'il veut, mais lorsqu'il existe un vaccin adapté de se faire vacciner contre les virus à risque, on estime que 40% des cancers pourraient être évités. C'est quand même énorme. Le tabac, c'est le premier facteur de risque évitable de mortalité par cancer, avec la responsabilité de 47 000 décès par an. 30% de la mortalité par cancer. Et au niveau de l'alcool également, on est à 15 000 décès par an, 9,5% de la mortalité par cancer. Et a priori, la consommation d'alcool en France reste parmi la plus élevée d'Europe. Bon, on a toujours focalisé sur cigarettes et alcool, et par exemple, vous, ça ne vous concernait pas. Donc, c'est parfois un peu dur aussi, je trouve qu'on mise tout là-dessus. On ne parle pas assez de l'alimentation, mais justement, il y a des études menées au Royaume-Uni qui estiment que 20 à 25% des cancers sont attribuables aux facteurs nutritionnels. Et donc, David Servan-Schreiber était vraiment celui qui a le plus milité là-dessus. C'est quand même quelqu'un qui a lui-même eu une tumeur au cerveau, qui est mort à 50 ans, je crois, et qui est mort de ça, mais qui a eu sa tumeur découverte très, très jeune, et qui a donc passé, 30 ans, 40 ans avec, qui était lui-même neuroscientifique, et neuromédecin, neurochirurgien même, et qui, en parallèle, ayant eu, lui, cette tumeur, s'est passionné, en fait, et a totalement transformer son regard à lui sur les médecines conventionnelles. Donc c'est assez intéressant pour comprendre les mécanismes de cette maladie et l'intérêt des pratiques complémentaires. Est-ce que vous avez d'autres conseils, un peu de lecture à donner ? Camille, il me semble que tu m'avais parlé d'un magazine.
Ah oui, effectivement, il y a le magazine qui s'appelle Rose Magazine, qui est distribué gratuitement dans tous les hôpitaux. C'est un magazine féminin qui est dédié au cancer, pas seulement le cancer du sein, et qui donne d'excellents conseils, qui est plein de témoignages très positifs et qui est dans une dynamique comme ça, qui donne de la force et du courage.
Donc, en ligne, ils ont un site internet où en fait on peut lire les articles. C'est très intéressant, très sympa, même si on n'est pas malade, hein, vraiment. Le site de Rose. Et je vois, Lucie, que tu nous sors de la littérature.
Alors, c'est pas vraiment de la littérature, mais pour continuer avec la nourriture, il y a un ouvrage qui s'appelle « Cuisiner avec les aliments contre le cancer » avec une préface de Servan-Schreiber. Et c'est super intéressant.
Donner peut-être le nom de l'auteur. Donc, c'est de Dr Denis Gringas et Dr Richard Béliveau. C'est en livre de poche. Voilà, « Cuisiner avec les aliments contre le cancer ».
Et je me suis aussi servie de la cuisine de Saint-Hildegarde qui a aussi fait beaucoup de recherches et qui propose aussi une autre manière de se nourrir. Ouais.
Donc voilà, l'alimentation, c'est quand même un facteur clé. On ne le dit pas assez, c'est encore quelque chose un peu précurseur de le dire. C'est toujours pas le cas. Enfin, ce qui choque un peu, c'est pourquoi dans les services à l'hôpital, la nourriture n'est pas du tout conforme à ce genre de principe. Il y a des choses qui sont un peu...
En Allemagne, ils sont un peu plus au point. Dans certains hôpitaux, il y a même... Ils font faire des jeûnes. Il y a un truc important.
Ouais, Lucie.
Comme référence, qui est intéressant.
Non, elle ne parle plus dans le micro, mais c'est parce qu'elle nous attrape ses petites feuilles.
C'est un film qui est sorti sur Arte. il y a quelques années et qui est sur le jeûne.
D'accord.
Et on peut l'acheter.
Et tu peux nous donner le titre.
6 euros et je cherche le titre. Je trouve pas le titre. C'est jeûne nouvelle thérapie.
Le jeûne nouvelle thérapie
sur Arte.
Très bien. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, je voudrais terminer en parlant juste un tout petit peu de la vie après le cancer, parce que toi, tu nous as dit que sur le moment, ça avait été un petit peu dur finalement de te remettre dans ta vie d'avant, mais en même temps, t'avais changé et puis t'étais plus en train de te battre, mais en même temps, t'avais quand même une tumeur, même si elle était saine et stabilisée, donc... Un peu difficile, je ne sais pas comment ça s'est passé pour ta maman.
Il y a eu un peu ce même effet d'une sorte de baby blues après la sensation d'être un petit peu abandonnée. Et il y avait quelque chose de rassurant dans ces rendez-vous très fréquents qui sont là pour vérifier si tout va bien. Donc effectivement, il y a eu cette même sensation. Puis après, un besoin de se réapproprier sa vie. Donc, de réinvestir son quotidien différemment, sans les rendez-vous médicaux. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est réinscrite, qu'elle s'est inscrite à la fac, qu'elle a découvert l'aquarelle, qu'elle a pris des cours d'anglais, qu'elle s'est réouverte un peu au monde, qu'elle s'est donnée aussi elle-même une deuxième chance. Donc, là, elle est dans plutôt cette dynamique-là qui est chouette.
Bon, nous, on finit sur une note positive, mais quand même, j'ai lu quelques statistiques un peu accablantes sur la vie après le cancer qui m'ont un peu choquée, en fait. J'ai lu que 9% des personnes interrogées, bon, 9% en même temps, c'est pas beaucoup, mais elles rapportent que même après, dans leur entourage, elles sont l'objet d'attitudes de rejet ou de discrimination, qu'il y en a quand même beaucoup qui vivent sous le seuil de pauvreté après. La proportion de personnes atteintes d'un cancer considérées comme vivant en 2 ans, non, comme vivant en dessous du seuil de pauvreté, est passé de 20% au moment du diagnostic à 25% 2 ans après le diagnostic. Donc ça ne... Et la situation professionnelle se dégrade considérablement 2 ans après le diagnostic. Donc c'est un petit peu révoltant. Et on a l'impression que y a beaucoup d'avancées, mais sur ces points-là, peut-être pas tant. Donc je pense que c'est chouette que vous ayez pu avoir... Enfin, ta maman et toi... Lucie, être bien entourée et ne pas subir ça. Mais il y a encore politiquement, je pense, pas mal de travail et pour faire un peu admettre et même faire avancer l'acceptation des méthodes complémentaires alternatives, y compris méditation, etc., dans les soins et aussi sur l'acceptation sociale, finalement, de cette maladie. Quoi. Ce qui est curieux parce que finalement, comme elle est en même temps très familière et très fréquente, qu'on en soit toujours à ce type d'attitude, notamment dans la vie professionnelle, peut paraître très choquant.
Oui, effectivement, même au niveau des assurances, si on veut ensuite acheter une maison, je crois qu'il y a des complications, enfin, ça peut arriver. Mais oui, effectivement, il faudrait que les mentalités évoluent très rapidement là-dessus, parce que c'est malheureusement quelque chose de tellement familier que...
Oui. Après, il y a la question des séquelles, selon ce que tu as eu comme cancer et la chimie, tout ça, qui peuvent jouer... peut-être aussi sur ta possibilité de reprendre le travail ou pas et de
réapparaître.
Moi, j'ai eu la tumeur était sur la zone du langage et au début, j'ai perdu beaucoup de mots et j'ai aussi perdu toute mon orthographe. Enfin, toute mon orthographe. Je faisais des fautes terribles. J'ai dû faire l'orthophonie et tout ça. Et en tout cas, selon les séquelles, oui. Je pense aussi que c'est possible ou pas de reprendre le travail, d'être réintégré normalement.
Oui, tout à fait. Bien, écoutez, merci. Merci beaucoup, Lucie, d'être venue parler dans cette émission. Quand même, une partie de ta vie qui n'est pas si facile. Donc, je te remercie beaucoup. Merci aussi beaucoup, Camille, d'être venue nous parler de ton expérience d'accompagnante. Et merci Lorraine de m'avoir fait la technique.
Merci Emma pour cette émission passionnante.
Très bien, donc c'était À notre santé sur les expériences du cancer et je vous retrouve dans un mois normalement pour une émission sur la santé et l'habitat.
Vaste sujet.
Bonne soirée à tous sur Radio Vassivière, au revoir.